Cassidy, ainsi souhaite-t-il. Quel impact la parole de Dieu a-t-elle dans nos vies? Eh bien, après ces longues proclamations liturgiques de la parole de Dieu, après les traductions données, certes, la parole de Dieu, pour nous, a au moins retenti dans les oreilles un certain nombre de minutes. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Quel type de chrétiens sommes-nous? C'est bien la question qu'il faut se poser après l'évangile que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Car si nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien malheureusement, il existe diverses sortes de chrétiens. La semence, nous dit le Christ dans l'évangile, c'est la parole de Dieu. Elle vient d'en haut, elle est jetée, elle est semée même par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu lui-même déjà dans l'Ancien Testament. C'est véritablement une révélation, quelque chose qui est amené à nous être donné et ensuite à porter du fruit en nous. Car qu'est-ce qu'une graine si ce n'est quelque chose qui contient en germe un fruit magnifique? Cette révélation qui nous est donnée, cette parole de Dieu qui nous a été dite, eh bien doit être accueillie pour ensuite pouvoir porter du fruit. Quelle est la qualité de la réception, de notre réception, de la parole de Dieu, de cette bonne nouvelle du salut qui doit transformer radicalement nos existences? Alors, eh bien, il nous faut passer en revue, à l'exemple de notre Seigneur, ces divers types de chrétiens que le Christ énumère. Ceux qui tout d'abord entendent, mais le diable, malheureusement, va retirer de leur cœur, nous dit Jésus, la parole même de Dieu. Activité terrible du diable, s'il en est, et que malheureusement nous voyons souvent autour de nous dans le monde, où certes, certaines personnes ont pu entendre un peu de la prédication de l'Église, ont pu entendre un peu de la prédication du Christ, mais qui malheureusement, eh bien, vont laisser la porte ouverte au diable. Et le diable va enlever la parole à ceux qui, eh bien, n'ont malheureusement pas assez ouvert leur porte. Il va enlever la parole de Dieu par crainte de la foi et du salut. Ils ne veulent, le diable ne veut pas que cette parole pénètre l'intelligence, il veut seulement que cela reste en surface, ne pénètre jamais l'intelligence et surtout qu'il n'y ait pas d'adhésion à cette parole de salut. Parole de foi, parole de salut. Activité terrible du diable, directement contraire à celle du semeur. Le semeur sème sa semence, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire donne véritablement à l'intelligence ce qui est bon pour elle. Le diable passe derrière et récupère cela. Triste chose. Ce sont toutes les tentations pour nous, eh bien, qui peuvent arriver lorsque nous entendons le discours de l'Église ou du Saint-Père. Il y a toujours une petite tentation qui est de dire « cela n'est pas pour moi, cela je n'ai pas besoin d'y adhérer, cela je peux faire mon salut sans aller jusque-là ». Alors, eh bien, c'est le diable qui ôte de nos oreilles, qui ôte de notre cœur la parole de Dieu qui aurait pourtant pu germer et porter du fruit. Le diable relève souvent la tête et excite tout un tas de gens en ce moment même, et nous le voyons, car il sent que quelque chose lui échappe. Il est bien clair que nous sommes à l'heure actuelle dans l'Église, dans un tournant et dans quelque chose qui prépare véritablement et qui est déjà une restauration. Et cela, eh bien, ne plaît pas au diable. Restauration qui concerne pas seulement l'Église, mais qui concerne évidemment aussi le monde entier. Et à chaque fois que l'Église relève délicatement la tête, eh bien, cela ne plaît jamais au diable. C'est pourquoi il se fait toujours plus violent, et cela ira sans doute de manière croissante, comme nous pouvons le voir en France, comme nous pouvons le voir aux États-Unis, comme nous pouvons le voir à chaque fois que l'Église commence à relever la tête. Ne lui prêtons pas main forte à ce diable. Par nos silences, par nos lâchetés, par nos respects humains, mais bien au contraire, soutenons de nos efforts l'ouverture à la foi des faibles, de ceux qui découvrent le message du Christ, de ceux qui finalement se disent que peut-être, effectivement, la vérité est bien là. Combien d'incompréhensions, combien de méconnaissances, combien de fadaises, voire d'attentes inconscientes derrière les sarcasmes du monde. Il ne faut pas avoir peur de défendre la religion tranquillement, charitablement, mais sûrement et véritablement. Ensuite, il y a ceux qui accueillent la parole avec joie. Ils entendent un beau message, le beau message du salut, mais pour un temps seulement, parce qu'il n'y a aucune profondeur. Ils n'ont pas assez creusé le désir de Dieu. Alors, l'épreuve contraire va justement entraîner une défection. Pour nous, c'est un appel à enraciner notre vie chrétienne et notre foi. Il ne suffit pas d'avoir entendu la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit ancrée en nous, dans nos esprits et dans nos cœurs. Le mystère du mal qui toujours nous frappe un jour ou l'autre, mal physique, mal moral, ébranle énormément de monde. Et nous devons, nous, avoir cette foi assez constante pour ne pas être ébranlés nous-mêmes et aller encore plus loin, porter secours à ceux qui commencent à chanceler. Comment effectivement comprendre des drames comme ce qui s'est passé en Haïti? Y a-t-il une réponse à cela? Eh bien, la foi en la providence, la foi en la bonté absolue de Dieu est souvent remise en cause dans le monde à cause de ce genre d'événements. Et certains sont littéralement balayés par l'épreuve. Aussi, si pour nous, cela ne pose pas de difficultés à notre intelligence, parce que nous croyons fermement que Dieu est bon, qu'il est la providence qui nous gouverne et qui fait concourir tout au plus grand bien absolu de sa plus grande gloire et de l'univers, alors nous devons porter secours aux autres. Mais si nous manquons de racines, si nous manquons de pratiques, si nous manquons de méditation, alors nous serons secs face aux objections. Les épines, les ronces, troisième catégorie de chrétiens qui sont là, à travers toutes sortes de difficultés qu'ils ont bien voulu laisser grandir autour d'eux. Ce sont les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Il y a souvent, il y a même, dirons-nous, majoritairement, d'où une double tendance dans nos cœurs. Il y a une croissance réelle de l'amour de Dieu. Et ici, ce qui a été semé croît véritablement, augmente. Et c'est quelque chose qui est plein d'espérance. Mais à cause d'un attachement désordonné aux créatures, il n'y a pas l'arrivée à la maturité. Il n'y a pas le fait, eh bien, de pouvoir porter du fruit. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas jardiné autour de la petite graine qui a été reçue dans de la bonne terre. On a laissé, eh bien, le monde arriver dans notre cœur et faire pousser tout et n'importe quoi. Et donc, c'est un appel pour nous spécialement à continuer notre combat spirituel. Le combat spirituel, c'est du jardinage. Il faut un beau jardin, il faut un beau champ, et il ne faut pas laisser, eh bien, pousser tout et n'importe quoi autour de notre cœur. Nous aimons Dieu dans notre cœur, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a autour de notre cœur? Est-ce qu'un jour, justement, il n'y a pas trop de choses qui va faire en sorte, eh bien, que la graine, que la plante qui commence à pousser va être étouffée? Alors, reprenons courage, rejetons toutes les attaches excessives au monde qui peuvent être en nous. Détachement intérieur qui est tout à fait nécessaire à tout chrétien. Il nous faut recouvrer la liberté du Christ face à tout ce qui n'est pas Dieu, qui lui seul est notre absolu. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il se renonce à lui-même. il faut renoncer à soi-même. Et cela est, je crois, la disposition fondamentale du disciple, comme le dit Jésus. Lutter contre tel attachement, contre tel autre attachement, etc., cela est difficile et parfois même on s'épuise. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas le mal à la racine. Il faut, avant de renoncer à telle chose intérieurement, il faut se renoncer à soi-même. Et alors, le terrain est propice et rien ne peut pousser que l'amour de Dieu en nous. Comment ne pas citer ici spécialement l'imitation de Jésus-Christ pour nous convaincre de la vanité de tout ce qui n'est pas Dieu. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Et permettez-moi de citer le numéro 4 de ce premier chapitre en entier. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bien être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage, « L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. » Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Langage fort, langage efficace aussi, parce que cela nous remet dans le droit chemin. Dans le droit chemin, c'est-à-dire dans la bonne terre. Dans la bonne terre que nous devons être. Notre cœur doit être noble et bon, comme dit le Christ. Il faut non seulement écouter la parole, mais il faut recevoir cela dans ce cœur noble et bon, à l'exemple de saint Paul. Il faut garder la parole, nous dit le Christ, c'est-à-dire la faire grandir et ensuite, par l'attention, la méditation et la foi, cela portera du fruit. Portera du fruit, c'est-à-dire donnera de bonnes actions. Cela est dû aussi à une qualité de notre vie chrétienne. Une fois qu'on a entendu la parole de Dieu, il faut la constance. La constance, c'est travailler dans la durée. Et cela est difficile à notre époque, où tout va vite, où tout bouge, où tout change, où on a toujours envie tout de suite. Eh bien, le Christ dit non. Il faut la constance. Il faut le fait de tous les jours avancer et de faire un pas de plus, avec résignation, avec obstination spirituelle. La constance est un fruit de l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, nous devons combattre. Demain, nous devons encore combattre. Et après-demain, peut-être encore. Mais si nous combattons tous les jours, alors un jour, Dieu donnera la victoire, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.